Bernard Campagne, bonjour. Pour cette dernière dans le Puy-de-Dôme, plusieurs informations sur les orientations prises en faveur des espaces naturels et de l'environnement, dont le dispositif Sentinelle de l'environnement. Je vous parlerai d'une autre disposition tout à l'heure. Ce dispositif a été adopté par les associations France Nature Environnement, et entre autres la Fédération Régionale Auvergne Nature Environnement, et la FRAPNA, qui désigne la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature. Il s'agit de donner à toute personne intéressée la possibilité de faire part des atteintes à l'environnement qu'elle peut constater dans son quartier en allant au travail ou en faisant une randonnée par exemple, et de lancer une alerte auprès des associations de terrain afin de trouver une solution. Mais cette vigilance peut aussi porter sur des initiatives positives. Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer, de dire ah, c'est scandaleux de la délation, mais c'est de dire aussi, voilà, il y a des initiatives positives qui peuvent être relayées par les fédérations. Un mot sur la FRAPNA, donc cette fédération des associations de Rhône-Alpes, compte 220 associations, 51 000 adhérents, 10 pôles d'expertise et 108 salariés. Le site de cet outil d'alerte est à l'adresse sentinelle-environnement.fr. Premier invité, Olivier Blanc, coordinateur du Centre Expert Schizophrénie au CHU de Clermont-Ferrand, pour un travail exceptionnel d'insertion professionnelle des patients du centre. Des précisions à lire aussi dans l'article de Laurent Gibowski dans les pages numériques de La Vie. Et puis nous parlons ensuite de la fièvre des tiers-lieux qui touche la France depuis quelques années, avec Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Olivier Blanc, bonjour.
Oui, bonjour.
Olivier, ingénieur hospitalier et coordinateur du Centre Expert Schizophrénie au CHU de Clermont-Ferrand. Centre qui fait partie d'un réseau national.
Absolument. Le Centre Expert Schizophrénie, comme d'autres centres experts dans le champ des troubles bipolaires et dépression résistante, fonctionne sous l'égide de la Fondation Fondamentale. Mmh. Et donc, il y a un maillage, effectivement, au niveau national.
Oui. Quand on parle de schizophrénie, on parle donc de troubles psychotiques, parfois très invalidants. Oui. La schizophrénie peut être très, très invalidante à un certain degré.
Elle peut l'être, mais c'est aussi une représentation que nous avons. Et je pense que la schizophrénie recouvre plusieurs formes, plusieurs expressions. On parle souvent des schizophrénies, mais ça peut être aussi effectivement une expression qui conduit au handicap psychique dans le fonctionnement au quotidien.
Ouais. Et vous êtes parti d'une constatation, c'est 80% des patients interrogés souhaitent travailler.
Absolument, puisque effectivement, lors des évaluations, c'était des questions que nous posions sur les projets qu'avaient les personnes dans leur vie. Et en fait, 80% des personnes formulent le souhait d'un projet professionnel.
Mmh. Ça implique que vous, vous traciez d'une certaine manière le parcours de retour ou d'arrivée à l'emploi de la personne?
Alors absolument, effectivement, il existe déjà des dispositifs type ESAT, donc son structure oui. médico-sociale. En revanche, nous avons souhaité, effectivement, au Centre Expert Schizophrénie, développer un accompagnement à l'emploi au plus près de l'usager, une forme de case management, mais tourné vraiment vers l'emploi, pour accompagner, effectivement, ces projets qu'ont les personnes et qu'ils expriment auprès de nous.
Alors, ce dispositif innovant s'appelle Job Coaching. Il est soutenu par la Fondation de France dans le cadre de son programme Maladie Psychique. Il y a la reconstruction de la personne, la construction de son parcours professionnel, qui passe parfois par une remise à niveau, des compétences, peut-être des formations. Vous vous engagez aussi dans ces responsabilités-là?
Absolument. C'est-à-dire que nous avons développé cette action innovante selon une méthodologie qui s'appelle la méthodologie IPS, Individual Placement and Support, qui est un outil du rétablissement.
Oui.
Qui repose sur le modèle du place and train, c'est-à-dire insérer d'abord, puis former et soutenir l'activité ensuite. Cette méthode, en fait, place la personne en tant qu'acteur de son projet professionnel et avec un accompagnement spécifique avec une professionnelle, en l'occurrence Nathalie Fiorito, qui connaît bien le monde de l'entreprise. Mmh. Bien le champ de la formation et de toutes les aides aussi qui peuvent être apportées, qu'elles soient financières ou matérielles, pour les personnes effectivement qui ont un projet professionnel et d'insertion professionnelle.
Ouais. Ça implique aussi que vous informiez les employeurs potentiels de la situation de ces personnes concernant leurs troubles psychiques.
Alors absolument, et ça fait partie effectivement des missions de notre job coach, c'est-à-dire construire un réseau d'entreprises publiques ou privées partenaires. Donc effectivement, nous avons amorcé des collaborations. Ça s'est passé sous la forme quelquefois de sensibilisation au handicap psychique, que ce soit auprès de référents handicap, notamment du MEDEF, mais aussi de la fonction publique, par exemple. Mais aussi apporter des réponses en termes d'information et de sensibilisation au handicap psychique, qui peut se faire sous forme de café-débat. On a aussi créé ce type d'interaction en ayant l'idée aussi de sensibiliser et d'estigmatiser la maladie psychique, en fait.
Olivier, une dernière chose, on a dit que c'était une expérience pilote. Ça veut dire que vous êtes les pionniers en cette matière d'insertion et de retour à la vie ordinaire?
Non, ça serait présomptueux de dire ça. Ça a été pilote, effectivement, à l'époque, en 2016. Il faut savoir aussi que la loi a accompagné beaucoup ce projet, en fait. Ce projet a essaimé, que ce soit au niveau territorial, mais aussi au niveau national, avec ce qu'on appelle l'emploi accompagné, qui a vraiment des bases réglementaires. Et des initiatives sont retrouvées un petit peu partout en France. Il est à noter quand même que l'équipe de Marseille, le Working First, qui forme à la méthode IPS, accompagne beaucoup d'équipes aussi dans ce projet-là, qui trouve toute son ampleur aujourd'hui au niveau de la loi travail, qui a développé l'emploi accompagné de diverses manières sur le territoire national.
Merci pour ce témoignage et cette expérience. Fondation près d'Union Fondamentale.org. Il y a un lien aussi qui va s'afficher avec la Fondation de France sur les maladies psychiques et les enjeux de société dans le suivi de ces personnes, l'accompagnement dans l'insertion professionnelle. Merci et continuez.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Je vous soumets un autre exemple de sauvegarde de protection de la nature, c'est l'association Pense-Bête, P-A-N-S-E, Centre de soins apportés aux mammifères, amphibiens et reptiles sauvages à Chamalières, fondé par Laurent Longchambon, membre du CPIE des Dômes, CPIE Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement. Ce centre intervient en Auvergne dans les régions voisines pour prendre en charge les animaux blessés ou en difficulté avant de les replacer dans leur milieu naturel. Une équipe de soigneurs agréés, des bénévoles et le centre fait partie de l'Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage. Ils sont souvent en équilibre financier, donc plus il y a d'adhérents dans ces centres, et mieux ils se portent, d'autant que en général, ils sont surchargés de demandes de sauvetage, d'intervention, de secours. Quant au CPIE Clermont-Dôme, il dispose de deux sites de travail animés par une équipe de 18 personnes formées au développement durable. Il est membre de plusieurs réseaux d'éducation à l'environnement, il intervient en permanence, d'où son nom, sur le terrain. Il assure de la co-formation avec des partenaires locaux, et puis il travaille avec les institutionnels et les professionnels, ce qui est le cas de tous les centres permanents d'initiative à l'environnement en France. Celui-ci a pour adresse CPIE, trait d'union Clermont, trait d'union Dôme au pluriel, .org. Avec nous en duplex, Sylvie Le Calvez. Bonjour Sylvie.
Bonjour Philippe.
Sylvie qui est avec nous depuis les studios de France Bleu Normandie-Caen pour un nouveau dossier du dernier numéro du magazine Village, les nouveaux lieux du lien. On aime bien cette allitération, les lieux du lien. Ce sont souvent des tiers-lieux, comme on les appelle, qui sont en train d'exploser en France.
Oui, alors c'est dur hein, néanmoins d'avoir des chiffres, mais la Fondation Autrement dit qu'on en compterait aujourd'hui, à prendre avec précaution parce que la définition est assez large, 1800. Alors 1800, mais plus de la moitié hors métropole, alors qu'on pourrait se dire bah c'est réservé aux villes, c'est espaces de coworking, c'est Fab Lab, en gros c'est bureaux partagés, c'est lieux de rencontre qui sont à la fois à mi-chemin entre la sphère privée et la sphère publique, hein, on sait pas trop, mais c'est sûr qu'en tout cas ça explose un peu partout en France, y compris dans des territoires très très ruraux.
C'est à l'image de toutes les alternatives qu'on trouve chez vous dans le magazine et dans nos carnets. Ces lieux ont différentes formes, différentes tailles. On peut être proche de Toulouse. Vous donnez l'exemple du centième singe. J'aime bien cette expression. Agnières-sur-Vègre, dans la Sarthe, 430 habitants. Là, on a l'association Village Factory. Où on a aussi un tiers-lieu à vocation agricole. Donc on peut avoir tous les possibles dans ces lieux intermédiaires alternatifs.
Oui, c'est ça qui marche, c'est quand ça part du besoin des personnes localement. Alors parfois, effectivement, on a le centième singe qui rassemble à la fois des agriculteurs et des télétravailleurs. Ça paraît complètement improbable, mais en estimant qu'il y a eu les mêmes besoins d'accompagnement, les mêmes besoins de rencontres. Et puis à d'autres endroits, c'est à la fois des télétravailleurs, des artistes, un tapissier décorateur. Et parce que des gens se sont rencontrés, ont eu envie de ne plus être isolés les uns des autres, de se dire on veut un lieu où on peut être à la fois indépendant et en même temps partager ce qu'on fait, trouver par exemple des lieux d'exposition en commun quand il s'agit d'artistes. Donc ce qui est important, c'est de partir bien du besoin des gens localement. Et ce qu'on voit, c'est beaucoup maintenant de collectivités, et on les comprend, hein, qui créent des tiers-lieux de toutes pièces. Alors, elles savent bien trouver de l'espace disponible, des locaux, éventuellement faire venir la fibre optique, mais souvent manque cet aspect animation, besoin vraiment des acteurs du territoire, et ça peut aussi conduire à faire des lieux qui ont coûté très cher et qui parfois sont vides. Donc c'est bien de partir et d'appuyer des mouvements spontanés de personnes qui ont envie de travailler ensemble.
Et il faut éviter aussi, Sylvie, de prendre ce phénomène par le petit bout de la lorgnette en disant c'est un épiphénomène, c'est anecdotique, ça apporte un peu d'animation, puisqu'on voit qu'il y a un enjeu de développement pour les territoires ruraux par la coopération, par la co-construction, grâce à ces lieux.
Ah oui, tout à fait. Et le mouvement de concentration des emplois dans les métropoles risque de s'atténuer, puisqu'on s'aperçoit que dans 5 ans, 50% des actifs auront en gros entre 25 et 30 ans, et puis que la majorité d'entre eux souhaitent devenir travailleurs indépendants, pouvoir bouger, changer de lieu de vie régulièrement, travailler à plusieurs de façon autonome. Et donc ça, c'est un enjeu pour les territoires qui sauront s'en emparer. Et justement, animer ces lieux-là. Ce qui manque, c'est pouvoir mettre en réseau ces personnes plus que finalement des locaux, parce que je sais pas, une bibliothèque qui ouvre un espace supplémentaire, c'est pas très compliqué. C'est plutôt l'animation et la mise en réseau qui manque aujourd'hui.
Alors, je sais que ça va agacer encore des auditeurs qui vont dire « Ah oui, mais c'est du coworking. » On parle de même de « makerspace », la rencontre des savoir-faire numériques artisanaux ou artistiques. Bon, c'est souvent les Fab Labs, comme on les appelle aussi. Donc, c'est des lieux où on peut s'initier à une construction via des machines numériques, entre autres imprimantes 3D. Vous avez parlé de co-living. On partage tout dans ces lieux. Il y a une note importante, c'est que, et vous le rapportez, Sylvie, dans le magazine, c'est 4,5 millions de Français actifs travaillent au moins un jour par semaine en dehors du bureau. C'est-à-dire que trouver un lieu lorsqu'on se déplace pour prolonger sa journée de travail, c'est essentiel.
Oui, c'est essentiel, ça évite effectivement les bouchons, puis en même temps, chez soi, on n'a pas forcément la capacité à le faire, hein, pour différentes raisons. Parfois, il y a même aussi des enfants, hein, quand on est un jeune couple. Donc, c'est vrai que ces espaces sont importants, et puis souvent, ça rassure aussi l'employeur de savoir que son salarié, il n'est pas en train, entre guillemets, de passer l'aspirateur, même si ce n'est pas le cas, mais il est bien dans un espace qui est dédié au travail et qu'il est là pour ça. Et puis, on voit bien que ce mouvement, il s'accompagne d'une chute, hein, des cafés traditionnels. On est passé en quelques années de 200 000 à 40 000, parce que ce sont aujourd'hui les nouveaux lieux du lien, ces espaces qui ne sont pas du tout à prendre à la légère et qui correspondent vraiment aux besoins d'aujourd'hui.
Merci Sylvie pour ce dossier, à très bientôt.
Merci Philippe, à bientôt.
La semaine prochaine, nous serons dans le département de la Loire. Merci à Nuro qui réalise les carnets. Merci à Joël Levert qui l'assiste. Merci aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur apportent du volume comme Philippe Duclos aujourd'hui.